世界游记
Carne de Mon
Dnevniki Mira
Europana
Europa 1
Bem-vindos nos cadernos do mundo.
Sophie Larmoyer.
Bonjour tout le monde, ravie de vous retrouver pour ces premiers carnets 2019. On poursuit ensemble notre exploration du monde et de la comédie humaine, grave ou souriante, qui s'y déroule. Au programme aujourd'hui, un petit air de fête en souvenir des réveillons. Savez-vous que bien avant que la France devienne le pays du foie gras, les Égyptiens en faisaient, du temps des pharaons carrément. On va aller rencontrer un Belge qui élève des canards au bord de la mer Rouge. On ira aussi en Espagne, confronté à un afflux de plus en plus important de jeunes migrants mineurs venus du Maroc tout proche. Les régions en charge de leur accueil ont du mal à faire face. Et puis, cinq jours après la prestation de serment du nouveau président du Brésil, Jair Bolsonaro, issu de l'extrême droite, on fera une grande plongée dans cet immense pays d'Amérique du Sud avec des reportages. Et puis, on sera accompagné d'un grand écrivain brésilien, Milton Atum, qui a reçu le mois dernier à Paris le prix Roger Caillois de littérature latino-américaine. Nicolas Caro reviendra sur la vie et l'œuvre d'Amos Oz, disparu il y a 8 jours. Et Joseph Chovanec nous parlera des fêtes auxquelles il aime assister, assez différentes de nos réveillons. Les carnets sont ouverts, direction les.
Certains d'entre vous se sont peut-être mis à la diète après quelques excès, l'accumulation de réveillons, de petites et grandes fêtes. Et vous avez peut-être mangé du foie gras, c'est un peu la période. Mais saviez-vous que la recette n'a été importée qu'assez récemment en France, autour du 18e, 19e siècle? Et à l'origine, le foie gras vient des bords du Nil. En Égypte, c'est une tradition qui remonte à l'ère des pharaons. Aujourd'hui, elle a été oubliée, mais un Belge est en train de la raviver. Du foie gras made in Egypt, c'est le reportage d'Ariane Lavrieux à Gouna, au bord de la mer Rouge.
À quelques dizaines de minutes de la mer Rouge, la rive est désertique. Seules quelques bicoques sont entourées de verdure. C'est la ferme de Gouna, où viennent d'emménager Michel Mosser et ses canards franco-égyptiens.
Regarde, madame. Ils ont eu le premier gavage aujourd'hui à 4 heures. Ils sont en pleine digestion. Sous le cou, on voit qu'ils commencent à avoir une boule, une bosse, qui est la poche de stockage de la nourriture, un peu comme le hamster qui stocke dans ses joues. Et ils vont digérer jusque ce soir, et ce soir, on va leur redonner à manger. On est sur un canard qui est exactement le même que dans le sud-ouest, jusqu'à la souche génétique. Pour le foie gras, on ne gave que les mâles. Et donc, quand les œufs éclosent, évidemment, on ne sait pas à l'avance si ça va être un mâle ou une femelle, donc ils sont triés. Et on garde les mâles, et dans les accouvoirs du sud-ouest, ils se débarrassaient des femelles, jusqu'à ce que les Égyptiens viennent les trouver et disent « Ah mais ne vous en débarrassez pas, nous on vous les prend ». Et ils amenaient les petites canettes en Égypte pour les élever en canard à chair. Et moi, je me retrouve en Égypte à vouloir faire du foie gras avec tout le monde qui me dit « Mais enfin, quelle idée, c'est comme si tu faisais des asperges sur Mars, ça ressemble à rien ». Et en fait, si, ça a du sens, puisque c'est un produit qui vient d'ici. Les canards sont les mêmes que dans le sud-ouest. Le maïs est très bon et on fait un très bon foie gras.
Et surtout, à l'époque des pharaons, on raffolait de ce foie gras, à tel point que dans certaines tombes près des pyramides, il y a des fresques qui détaillent la fameuse technique du gavage.
J'habitais à Abou Simbel, tout au sud de l'Égypte, où je gérais un petit hôtel écolo. Et c'est là où je me suis rendu compte que les anciens Égyptiens ont inventé le foie gras. Il y a 5000 ans, au bord du Nil, les anciens Égyptiens ont observé que les foies des oies qui se gavaient de nourriture pour se préparer aux migrations, ces foies-là avaient une couleur, une texture, une taille qui était absolument pas normale. Le goût était complètement délicieux. Et donc, le gavage, c'est reproduire un phénomène naturel à la base.
La différence, c'est qu'aujourd'hui, Michel les engraisse non plus à la main, mais avec une machine en forme d'entonnoir. Aux défenseurs des animaux qui y voient un mauvais traitement, cet ancien militant écolo rétorque, cet élevage reste plus artisanal qu'en France.
Vous seriez en France, il y aurait deux fois plus d'animaux au mètre carré. On a des canards ici qui sont à une dizaine par cage, qui sont avec leurs copains, qui ne sont pas dans des cages individuelles, qui sont maintenant interdites par l'Union européenne. On est sur un gavage qui reste à taille humaine. Alors ce n'est pas confortable, on est bien d'accord, mais on est sur un gavage qui dure 2 fois 1 minute par jour et ça reste, à mon sens, tout à fait légitime par rapport à l'objectif qu'on veut atteindre.
En tout cas, la recette égyptienne du foie gras séduit ici de plus en plus d'immigrés français en manque de produits hexagonaux.
Bonjour.
Bonjour, c'est Laetitia, ma grand-mère Jocelyne.
Bonjour madame. Bonjour. Entrez. Je pense que vous êtes mes premiers clients français à venir
jusqu'ici. J'aurais voulu de la graisse de canard.
Très bien. Là, voilà. C'est super.
Ouais, elle est jolie. Hein.
Ouais.
Un paquet avec deux tranches de foie gras.
Ah ouais, il est très bon. Hein. Puis en plus, très très fin, là, c'est délicieux.
Même si Michel n'est pas le premier à fabriquer du foie gras ici, il reste très peu connu sous cette forme. Alors j'ai proposé à deux Égyptiens, Peter et Bishoy, de le goûter.
C'est
un peu le goût du foie de vache. D'habitude, le foie gras qu'on a ici est sous forme de pâté, alors on ne peut pas vraiment savoir que c'est du foie. Il est mélangé à plus d'épices que celui-là. Là, c'est du pur foie.
Bishoy, tu veux essayer le foie gras?
Bien sûr que non, ça a l'air horrible, impossible. La forme est bizarre et ça ne sent pas bon.
Bon, donc il n'y a pas trop d'espoir pour le marché égyptien.
Bon, peut-être que si, de plus en plus de gens aiment les produits chics.
Vendu 100 euros le kilo, ce foie gras reste en effet un mets de luxe, mais son jeune producteur vise dans quelques années les marchés voisins des pays du Golfe. À Gounin, Ariane Lavrieux, Europe 1.
Voilà, Ariane a quitté les Canards et les bords de la mer Rouge et on la retrouve au bord du Nil à Assouan. Bonjour Ariane.
Bonjour, ouais, je suis même au milieu du Nil, sur une île, l'île Éléphantine.
Quelle chance. Bon, j'avais encore deux, trois petites questions à vous poser après ce reportage. Le foie gras a beau être une tradition pharaonique, donc apparemment ça reste quand même une bizarrerie sur les tables d'aujourd'hui, non ?
Oui, mais quand même, les Égyptiens d'aujourd'hui ont gardé de cette époque ancienne la technique du gavage. Dans les campagnes, avant de tuer le canard, les femmes les forcent à manger un petit peu plus que d'habitude. Il y a même un mot spécial en arabe égyptien qui veut dire pousser de la nourriture dans le gosier du canard. Ce verbe, c'est yézarat. Mais ce gavage sert juste à rendre la viande un petit peu plus charnue avant de l'abattre. Sinon, il faut être français ou avoir des liens forts avec la France pour connaître le foie gras ici.
Ouais, un mets limité à la communauté francophile, donc. Et qu'est-ce qui fait office de foie gras? Alors, quelles sont les traditions culinaires de fin d'année en Égypte?
Bah, ce sont surtout les Coptes hein, qui fêtent Noël dans des grands repas familiaux comme en France, sauf que c'est le 7 janvier, donc demain. Et là, il n'y a qu'une règle, la quantité, des piles de viande, notamment farcies. On ne va pas hésiter à farcir deux, trois fois. J'ai vu par exemple une dinde farcie au poulet, lui-même farcie au pigeon, pigeon qui était rempli de boulgour aux épices.
C'est les poupées russes, votre plat. Du côté des bizarreries, est-ce qu'il y a d'autres étrangers comme ce Belge qui tentent d'importer en Égypte leur spécialité?
Oui, parce que l'appétit pour les cuisines étrangères est grandissant, l'industrie alimentaire, la restauration sont en plein boom ici et on voit de plus en plus de boulangeries allemandes, danoises, des épiceries italiennes, surtout dans les quartiers riches, les villes résidentielles en banlieue du Caire, à tel point qu'en cette période de Noël, dans certaines rues on se croirait à Londres avec des sapins, des guirlandes, des vitrines en anglais, en français pour attirer cette clientèle aisée, très imprégnée par les séries, les films occidentaux.
Merci Ariane, en tout cas pour ce petit air de revenez-y avec le foie gras des pharaons. Et bientôt, vous allez nous dire que la galette à la frangipane vient aussi de chez vous.
Pas de souci, je prépare ça.
À bientôt Ariane.
À bientôt.
Europe 1.
Étape suivante des carnets, on file en Espagne qui doit faire face à des groupes de plus en plus importants de mineurs non accompagnés arrivés par la mer. Beaucoup viennent du Maroc pauvre et les régions sont un peu dépassées.
Europe 1, les carnets du monde.
Les carnets du monde avec Sophie Larmoyer, c'est en Espagne que nous allons maintenant.
Les gardes-côtes espagnols ont commencé l'année sur les chapeaux de roue. Pour les deux premiers jours de 2019, mardi et mercredi, ils ont secouru 401 personnes tentant de traverser la Méditerranée. En fait, l'Espagne est passée devant l'Italie. C'est devenu la première porte d'entrée en Europe des migrants, avec plus de 57 000 arrivées recensées en 2018. C'est deux fois plus en 2017. Parmi ces migrants, il y a de très nombreux jeunes non accompagnés. Près de 12 500 mineurs sont aujourd'hui sous la tutelle des autorités. Pour la plupart, ils sont originaires du Maroc et la présence de ces jeunes pose un immense défi à l'Espagne. Henri de la Guérie est allé à la rencontre de ces jeunes gens un peu perdus dans le centre de Barcelone. Reportage.
La prestigieuse bibliothèque de Catalogne, un bâtiment médiéval du centre-ville, abrite un joli jardin ouvert au public. C'est ici, entre les arbres, quelques statues et une petite fontaine que de jeunes Marocains tuent le temps en ce lendemain de réveillon. Sur des marches, une dizaine d'entre eux, âgés de 15-16 ans, discutent en écoutant de la musique grâce à une petite enceinte. Un peu plus loin, deux garçons assis sur un banc regardent l'écran de leur portable. Ils ont des cernes sous les yeux. Ahmed, 17 ans, mitouflé dans une doudoune, accepte de nous raconter son histoire.
Ça a été difficile d'arriver jusqu'ici, tu sais. J'ai traversé avec un bateau patera en 2015 et j'ai accosté à Motril, en Andalousie. J'ai passé 33 heures sur le bateau. Pour moi, comme pour tous les autres, c'était très difficile.
Ahmed a les yeux verts et il tient à le signaler, il est berbère. Il a quitté le Maroc sans prévenir sa famille.
À Motril, je suis allé dans un centre d'accueil. Ensuite, ils m'ont envoyé dans un autre centre, à Tarragone. Encore changé, je me suis retrouvé à Barcelone. Quand on est arrivé ici, tout le monde nous disait qu'il y avait du travail. Mais à nous, les Marocains, on ne nous donne pas de papier. Or, si tu n'as pas de papier, tu ne peux pas trouver d'emploi. Et donc, si tu n'as pas de travail, que tu ne peux pas manger et que tu n'as pas de logement, qu'est-ce qu'il te reste à faire ? Te démerder. Et tu vois, en ce moment, c'est l'hiver, il fait froid. Alors nous, comment on peut s'en sortir ? Si on ne vole pas, si on ne se débrouille pas différemment, on ne peut ni manger, ni s'habiller.
Ahmed le reconnaît, il pique parfois les portefeuilles des touristes. Fatigué de vivre dans un centre d'hébergement loin de la ville, il a pris la fuite et dort le plus souvent dans la rue. En Catalogne, plus de 300 mineurs isolés arrivent chaque mois. Ce sont quasiment tous des garçons, originaires pour 80% d'entre eux du Maroc et d'Algérie. Robert Moral les connaît bien, il est éducateur dans un centre d'accueil.
Il y a de nouveau des enfants dans la rue. Ça faisait des années qu'on ne voyait plus ça à Barcelone. Dans les centres pour mineurs, les jeunes dorment par terre sur des matelas, ou parfois même sans matelas, à même le sol. On a été complètement débordés. Comme le réseau d'accueil a rapidement été saturé, les mineurs se sont retrouvés à dormir dans les commissariats. Et ceux qui n'y trouvaient pas de place ont fini par dormir dans la rue.
En Espagne, ce sont les régions qui prennent en charge ces mineurs. Des auberges de jeunesse ont été créées à la hâte, souvent dans des lieux isolés. L'administration est censée leur offrir un lit et trois repas par jour. Mais dès qu'ils ont 18 ans, on leur donne 50 euros et ils sont priés d'aller voir ailleurs. C'est ce qui est arrivé à Chaoufik, un gamin né à Tétouan, dans le Rif, cette région pauvre du nord du Maroc.
Je viens tout juste de devenir majeur, et donc quand tu as 18 ans, ils te demandent de quitter le centre, et ils te mettent à la rue, tu sais. Moi, je dors à gauche, à droite, mais le plus souvent dans la rue. On est en train de se perdre à cause de la rue et à cause de toutes ces drogues. Tu sais, quand j'étais petit, nos familles nous disaient toujours de faire attention à ne pas tomber dans la drogue, mais il a fallu qu'on se retrouve dans ces villes pour devenir accro.
Et la drogue, ce n'est pas seulement le cannabis qu'il fume en répondant à mes questions, c'est surtout la colle qu'il sniffe à longueur de journée. Une drogue qui fait des ravages chez les jeunes Marocains. Chaoufik explique avoir suivi une formation de jardinier, mais il n'a pas trouvé de travail. Quand on lui parle d'avenir, il répond qu'il ne sait même pas où il dormira demain. Mais une chose est sûre, il ne rentrera pas, même si ses parents lui manquent.
Oui, on parle quelquefois avec la famille. Si on a un portable et qu'on a du Wi-Fi, on peut parler avec eux, mais souvent on ne peut pas communiquer. Moi, ça fait 4 mois que je ne parle pas à ma famille. Quelqu'un de chez moi pourrait mourir, je ne le saurais même pas.
Robert, l'éducateur, n'est pas très optimiste. Les moyens manquent, dit-il, et le personnel dans les centres n'est pas formé pour encadrer ces jeunes qui ont grandi trop vite et dont certains vivaient déjà dans la misère au Maroc. Heureusement, il y en a qui s'en sortent et c'est ce qui lui donne envie de continuer.
L'autre jour, un de ces jeunes qu'on appellera Mohamed a fait sa première installation électrique, sous mes yeux. Il a suivi une formation pour devenir électricien. Et le voir sur son lieu de travail en train de connecter des câbles, ça fait du bien. Malheureusement, pour un qui s'en sort, il y en a beaucoup trop pour qui ce sera difficile.
Cet éducateur craint que plus de la moitié de ces jeunes restent sur le bord du chemin et que les 40 millions d'euros débloqués en urgence par Madrid n'y changent pas grand-chose. Barcelone, Henri de la Guérie, Europe 1.
Il était à Barcelone toute la semaine, mais exceptionnellement, Henri de la Guérie est avec nous à Paris en studio. Bonjour Henri.
Bonjour Sophie.
Alors, on l'a dit, hein, l'Espagne est devenue la première porte d'entrée en Europe pour les migrants, mais quelles sont les raisons spécifiques qui expliquent cet afflux de mineurs non accompagnés ?
Alors, depuis que l'Italie a fermé ses ports, l'itinéraire maritime le plus emprunté, c'est celui du détroit de Gibraltar et de la mer d'Alboran. Les passeurs sont beaucoup plus nombreux qu'avant. On l'a dit, les mineurs qui tentent de traverser sont issus de familles très pauvres. Certains vivent déjà là-bas dans la rue et très clairement, les autorités marocaines ferment les yeux sur ces départs. C'est une manière, si je puis dire, de se débarrasser d'une population dont on sait qu'elle aura beaucoup de mal à s'en sortir. Et c'est aussi pour Rabat un moyen de pression sur l'Espagne et sur l'Europe avec l'arrière-pensée d'obtenir davantage d'aide financière pour empêcher ces traversées. Enfin, dernier élément qui pousse certains à partir, la répression du pouvoir marocain contre le mouvement de contestation dans la région du Rif.
Ouais, là encore, symptomatique de la crise sociale dans certaines régions du Maroc. Henri, la plupart de ces jeunes arrivent en Andalousie ou dans les enclaves de Ceuta et Melilla tout au sud, là, où vont-ils en général ensuite?
Alors, beaucoup suivent le parcours des jeunes qu'on a entendus dans le reportage. Généralement, ils ne veulent pas rester en Andalousie. Certains cherchent à rejoindre Madrid. Beaucoup vont à Barcelone, car c'est une ville où, c'est vrai, il ne fait pas très froid l'hiver. Ouais. Et ça compte, hein, quand c'est on vrai. Sait qu'on risque de dormir dans la rue. C'est aussi une ville populaire chez ces jeunes, grâce à son club de foot. Mais enfin, il y a aussi une grosse communauté marocaine déjà présente. Et puis, d'autres tentent de quitter l'Espagne, direction le nord de l'Europe. Bien sûr, des jeunes passent en France. Et ces derniers mois, on en a vu un certain nombre livrés à eux-mêmes dans les arrondissements du nord de Paris. Et malheureusement, la plupart sont devenus toxicomanes avec les difficultés de l'exil.
Dernière question, est-ce que les autorités espagnoles et marocaines ont un plan pour faire face à ce phénomène?
Madrid élabore un nouveau protocole d'accueil. Des quotas entre régions devraient être établis, histoire que l'Andalousie, la Catalogne et la région de Madrid n'aient pas à supporter à elles seules cet afflux de jeunes migrants. Les régions essayent tant bien que mal de leur offrir un avenir, mais par exemple en Catalogne, il y a seulement 16% de ces mineurs suivent des formations. L'État donne des papiers au compte-gouttes à ceux qui deviennent majeurs. Enfin, Madrid et Rabat ont engagé des négociations sur le sort de ces mineurs. Si les discussions aboutissent, certains d'entre eux pourraient être rapatriés vers leur pays natal.
Merci Henri pour ces précisions et pour ce reportage. A bientôt, de retour en Espagne.
Oui, de retour très vite.
Europe 1.
À suivre, la littérature étrangère et la disparition d'un grand écrivain, Amos Oz. Nicolas Carreau l'avait rencontré il y a quelques années.
Europe 1, les carnets du monde.
Un livre dans le monde, c'est le rendez-vous littéraire des carnets, chaque dimanche avec Sophie Larmoyer, Nicolas Carreau. Bonjour Nicolas.
Bonjour Sophie.
Alors on ne va pas parler d'un livre aujourd'hui, mais d'un prix Nobel de littérature, Amos Oz, qui a disparu le 28 décembre dernier, il y a quelques jours.
Amos Oz, grand écrivain, on lui doit quelques chefs-d'œuvre, une vingtaine de romans, des recueils de nouvelles aussi. Parmi ses romans les plus connus, on peut citer Une histoire d'amour et de ténèbres, qui est aussi une autobiographie. Ouais. Et justement, toute son œuvre est inspirée par sa vie. Il est né en 1939 à Jérusalem, il était donc israélien. Mmh. Son père était bibliothécaire, sa mère prof de lettres. Alors on n'échappe pas à sa condition, il pouvait être qu'écrivain. Il est entouré de livres très jeunes et c'est un livre américain qui déclenche son envie d'écrire, Waynesburg, Ohio, de Sherwood Anderson. C'est un classique, il faudra qu'on parle de ce livre un jour, Sophie. Écoutez ce que Amos Oz écrit à propos de cette découverte. Grâce à lui, je compris brusquement que le monde de l'écrit ne tournait pas autour de Milan ou de Londres, mais autour de la main qui écrivait, là où elle était, le centre de l'univers et là où vous vous trouvez.
Et lui, Amos Oz, il se trouve en Israël.
Et voilà, et donc il écrit dessus en essayant, bien sûr, en grand écrivain, de transformer le particulier en universel. C'est ce qu'il avait réussi brillamment dans l'un de ses derniers recueils de nouvelles, Entre amis, publié chez Gallimard en 2013. On en avait parlé à l'époque. Ouais. Une série de nouvelles qui se passaient dans un kibboutz, c'est-à-dire, vous savez, ces petites communautés utopiques qui se sont créées en Israël. Il était venu en France à l'occasion de la parution du livre. J'étais un petit peu tremblant, mais je l'avais rencontré. Écoutez ce qu'il disait justement sur ces tentatives.
Il y a toujours une différence entre une utopie et la réalisation de cette utopie. Les pères fondateurs des kibboutz voulaient changer le monde. Ils espéraient changer la nature humaine d'un seul coup. Mais ça, ce n'était pas possible. La nature humaine ne peut pas changer. Le résultat a été quelquefois de la frustration, de la solitude, de la tristesse. Et moi, j'écris à propos des gens qui ne sont pas heureux. Pas seulement dans ce livre, mais dans tous mes livres.
C'est ce que vous voulez dire, Nicolas, quand vous parlez de la mission de l'écrivain, de transformer le particulier en universel?
Exactement, mais c'est un exploit d'y arriver. Ouais. Comme lorsqu'il fait parler l'un de ses personnages à propos d'un autre, l'air de rien, il donne aussi sa vision du monde.
Quand Luna lui demande « Pourquoi prends-tu sur toi toute la misère du monde, toute la tristesse du monde ?» Il dit quelque chose de très important. Il dit « Le monde est plein de douleurs, nous ne pouvons rien y faire, au moins nous nous devons d'en parler. » Ça, c'est un point de vue très intéressant.
pas très gai comme point de vue.
Pas dans cet exemple, mais tous les sentiments se retrouvent dans chaque microcosme que vous observez.
Well, you know, it's a microcosm.
C'est un microcosme et tout ce qui existe dans le kibbutz existe partout ailleurs. La psychologie humaine est la même partout. Dans une petite goutte d'eau, vous pouvez voir tout l'océan. Et dans un petit village de 500 habitants, vous pouvez voir toute la comédie humaine. Tous les espoirs, tous les désirs, les déceptions que vous trouvez ailleurs.
Il n'y a rien qui ressemble plus à un humain qu'un autre humain, finalement.
Exactement. Et justement, c'est très présent aussi dans le combat politique d'Amos Oz. Il est israélien, donc il est élevé dans le sionisme. Mais il va devenir un grand militant de la paix entre Israël et Palestine. D'une manière plutôt originale et saine, d'ailleurs, l'un de ses essais sur la question s'appelait « Laissez-nous divorcer ». Il compare en fait Israéliens et Palestiniens à un couple qui veut se séparer, mais qui reste dans le même appartement. Et il explique que ce n'est pas possible, qu'il faut chacun son toit, c'est-à-dire chacun son état, en fait. On retrouve là cette idée de s'inspirer d'un micro-fait, d'un exemple du quotidien pour analyser le monde entier. Au-delà de ce conflit, il s'attaquait à toute forme de fanatisme. Il faut lire par exemple « Comment guérir un fanatique ?» Un essai, c'est brillant, drôle et contre toute forme d'intolérance. Il y parle des végétariens qui voudraient manger les carnivores ou des anti-tabac qui sont prêts à brûler les fumeurs.
Bien vu. Amos Oz donc à relire absolument. Et Nicolas, s'il ne devait y en avoir qu'un.
Oh bah, une histoire d'amour et de ténèbres par exemple, vous le trouvez en poche chez Folio.
Merci beaucoup, Nicolas. À dimanche prochain pour de nouvelles lectures.
Ça marche.
Europe 1.
Et dans un instant, on reçoit justement un grand écrivain, Milton Atoumé, brésilien. Et avec lui, on va examiner le Brésil version 2019, avec son nouveau président élu, issu de l'extrême droite, et son nouveau gouvernement militariste, évangélique, masculin et blanc.
Europe 1, les carnets du monde.
Vous écoutez Europe 1, les carnets du monde avec Sophie Larmoyer. C'est au Brésil que nous allons maintenant, le Brésil qui entre dans une nouvelle ère politique.
Jair Bolsonaro est depuis le 1er janvier, depuis mardi, le nouveau président du Brésil. Il avait été élu le 28 octobre dernier, issu d'un tout petit parti d'extrême droite. Et pourtant, le voilà à la tête du plus grand pays d'Amérique latine avec plus de 200 millions d'habitants. Vous vous souvenez sans doute de ses propos très violents pendant la campagne contre les Noirs, contre les homosexuels, les femmes, de ses discours pro-armes à feu aussi. Alors comment le Brésil va-t-il évoluer avec ce nouveau président? On va se poser la question à travers deux reportages avec notre correspondante Marino Dacher et avec un invité de marque, un grand écrivain brésilien, Milton Atoum, qui nous a rendu visite. Bonjour Milton Atoum.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là pour nous parler du Brésil, votre pays, de sa complexité. Et si vous voulez bien, on va commencer par entendre les Brésiliens. Premier coup de projecteur, à quelques semaines de la rentrée universitaire, sur le sort des étudiants, car Jair Bolsonaro veut notamment supprimer les quotas qui ont permis à toute une génération de Brésiliens, les plus pauvres, des Noirs, métis, indigènes, d'entrer à la fac. Voici le reportage de Marino Dacher à São Paulo.
C'est un débat qui ne laisse personne indifférent. Ces fameux quotas qui ont permis d'ouvrir les portes des universités aux plus modestes grâce à des bourses ou à des places réservées selon les facs. C'est une manière de réparer une injustice profonde dans l'un des pays les plus inégalitaires au monde, estime Viviane, professeure d'économie à la FMU, la faculté métropolitaine de São Paulo.
Ça dérange certains de savoir qu'ils peuvent perdre ces privilèges. C'est plus facile de dire que je suis professeur à l'université parce que j'ai travaillé, non pas parce que je viens d'une famille qui avait les moyens pour que j'étudie. C'est une situation complexe. Les politiques de quotas sont très importantes parce qu'elles ont valeur de réparation historique, surtout pour les indigènes et les Noirs. Je considère les quotas comme un outil de transition. On espère ne plus en avoir besoin, mais en ce moment, c'est visible. Aller dans une entreprise, regarder qui occupe les postes à responsabilité de PDG, des hommes blancs en majorité. Et c'est le cas au Congrès, dans la politique. Donc nous défendons les quotas et davantage encore dans la conjoncture actuelle.
Le Brésil a signé la fin de l'esclavage il y a 130 ans seulement et les Afro-Brésiliens représentent plus de la moitié de la population. Ils ne sont donc pas une minorité. Progressivement, au cours des 15 dernières années, ils ont largement bénéficié de ces quotas instaurés par le Parti des travailleurs de Lula. Scandaleux, retoquent les opposants à cette mesure. Rodrigo Neves est de cela, la trentaine. Il est diplômé d'histoire à la meilleure université publique du pays et l'un des piliers de la mobilisation des jeunes pour Jair Bolsonaro.
Je suis radicalement contre. C'est pour lutter contre les quotas que je me suis engagé en politique. Je crois en la méritocratie. Je ne crois pas que la couleur de peau de quelqu'un doive lui conférer un statut préférentiel devant la loi, que ce soit pour entrer dans un restaurant ou à l'université.
C'est justement le parcours de Dim Sorelien, 30 ans lui aussi, né en Haïti. En 2014, après le tremblement de terre qui a dévasté son île, il rejoint la capitale économique du Brésil, se fait embaucher dans une boulangerie. À l'époque, il parle 5 langues, créole, français, espagnol, anglais et portugais, et reçoit l'équivalent de 200 euros par mois. Pas de quoi poursuivre ses études. C'est donc grâce au quota qu'il rentre à l'université Zumbi dos Palmares, qu'il étudie le management et fait en parallèle un stage dans une grande banque américaine. Quand je le retrouve à l'heure de sa pause déjeuner, c'est flagrant. Il est l'un des rares noirs dans le quartier des affaires de São Paulo et il n'est pas peu fier de son parcours.
J'ai eu la chance d'avoir une bourse d'études et puis j'ai commencé avec l'université. J'ai appliqué pour une position de stage. On était 35, il y avait 3 positions et j'ai eu la chance de travailler là comme stagiaire. En fait, ce n'est pas la chance, c'est la détermination, l'effort personnel. Parce que moi, je vise mon objectif et je travaille pour ça aussi.
Beaucoup de travail, de détermination et 3 heures de transport par jour, car les bénéficiaires des quotas habitent souvent loin des campus, dans les favelas ou les périphéries des grandes villes. Cette révolution silencieuse qui a permis aux fils de portiers ou des domestiques d'étudier aux côtés des enfants dits de bonne famille pourrait s'arrêter brutalement sous Jair Bolsonaro. Mais une génération d'afro-descendants et d'indigènes a déjà changé son destin grâce à ces quotas. De 5% en 2005, ils sont aujourd'hui presque 13% à avoir décroché un diplôme universitaire. À São Paulo, Marine Odacher, Europe 1.
Voilà Marine Odacher qu'on retrouve depuis São Paulo pour évoquer les premiers pas du président Bolsonaro et de son équipe. Bonjour Marie.
Bonjour.
Alors dites-nous déjà à quoi ressemble ce nouveau gouvernement, qu'est-ce qu'il laisse présager?
Alors c'est un gouvernement conforme à ce que Bolsonaro promettait pendant sa campagne, avec l'ordre en première ligne. Un tiers de ministres sont des militaires et puis cette équipe reflète aussi la vision ultra-libérale de Jair Bolsonaro sur le plan économique. Mmh. Parmi ses premières victimes, le ministère de la Culture qui a disparu. Existe aussi le ministère du Travail, englobé dans un super ministère de l'économie, dirigé par Paulo Guedes, le gourou économique du président. Ouais. Puisque vous vous souvenez, Bolsonaro a dit qu'il ne comprenait rien à l'économie et des privatisations à grande échelle sont prévues, ce qui ravit les milieux financiers.
Il y a quelques personnalités bien tranchées dans ce gouvernement.
Oui, notez d'abord qu'il y a 22 ministères avec seulement 2 femmes, aucun noir. Et l'une de ces 2 femmes, par exemple, c'est Damarès Alves, ministre des Femmes, de la Famille et des Droits de l'Homme, avec un profil extrêmement conservateur. Elle est pasteur évangélique, totalement opposée à l'avortement. Et pour vous donner une idée de la caricature dans laquelle on est, elle s'est fait applaudir cette semaine en déclarant que les petites filles devaient s'habiller en rose et les garçons en bleu.
Ah oui, on en est là.
Oui, et d'ores et déjà, par exemple, elle vient de mettre fin aux prérogatives de la fondation qui protège les Indiens et qui avait le pouvoir de délimiter les terres indigènes. Désormais, c'est le ministère de l'Agriculture aux mains de l'agrobusiness, donc les pires ennemis des Indiens, qui tranchera. Dans la même ligne, il y a aussi le nouveau ministre des Affaires étrangères, Ernesto Araújo, fervent admirateur de Donald Trump, climato-sceptique assumé. Selon lui, le réchauffement climatique relève de la conspiration. Et enfin, dans les salles de classe, une ambiance de suspicion va s'installer. Ce n'est pas encore une loi, mais les professeurs sont priés de ne plus évoquer la théorie du genre, présentée par le nouveau pouvoir comme une version diabolisée de l'éducation sexuelle. Les mouvements conservateurs, regroupés sous la bannière Escola Sem Partido, école sans parti, incitent les élèves à filmer leurs profs avec leur portable pour dénoncer ceux qui oseraient parler politique, homosexualité, bref, ouais, tout ce qui entre en conflit avec les théories présentées dans la Bible.
Un nouveau ministre de l'Éducation qui est philosophe et théologien, comme ça c'est clair. Merci beaucoup Marie pour cette première photo de l'équipe qui s'apprête à gouverner le Brésil.
À bientôt.
Milton Natum, je rappelle que vous êtes l'un des grands écrivains du Brésil, traduit dans une douzaine de langues à travers le monde. La professeure d'université qu'on entend dans le reportage évoque cette politique des quotas qui avait été mise en place par la gauche, comme une réparation historique, disait-elle. Ça représentait aussi la fin des privilèges. C'est bientôt fini ça, Jair Bolsonaro veut revenir là-dessus.
Oui, il voudrait finir avec les quotas, mais je crois qu'il ne va pas arriver. Ça. Les quotas sont vraiment une réparation historique. Ça fonctionne bien. Il y a même des Indiens, beaucoup de Noirs, des gens pauvres.
Qui n'accédaient pas avant à l'université pour des raisons économiques avant.
Voilà, c'est ça. Mm-hmm. Mais les quotas, ce n'est pas une entrée automatique. Il faut avoir
des bons résultats
ouais. à l'école publique mm-hmm. pour entrer à l'université.
Ce sont des aides financières, mais
oui,
il faut avoir de bons résultats.
Mais mm-hmm. Il faut être un bon étudiant.
Ouais. Quels sont... ces privilèges, les privilèges que certains voudraient se garder et ils ne voudraient pas partager avec une grande partie de la population, les Noirs, les Indiens, etc.
Les privilèges de l'élite brésilienne, depuis toujours, de l'élite de la haute classe moyenne. Vous savez, le Brésil, l'esclavage
a été aboli il y a 130 ans,
mais le privilège continue. Le privilège des hommes politiques, des pouvoirs judiciaires, de la justice, du magistrat, enfin de l'élite.
Et ça se traduit comment dans la vie, concrètement, dans la vie quotidienne?
Par exemple, les riches payent moins d'impôts, beaucoup moins d'impôts mm-hmm. que la classe moyenne. Et, vous savez, au Brésil, il y a encore le domestique. Et il me semble que la politique de Lula, hein, qui ouais. a fait que beaucoup, des millions de Brésiliens aient accès au voyage d'avion, ouais. enfin, même à l'université, ça a dérangé un peu l'élite brésilienne.
Ce programme de la Bolsa Familia qui a permis à beaucoup de Brésiliens de sortir de la pauvreté et d'accéder à la classe moyenne.
Voilà. Mm-hmm. Et les quotas aussi.
Et ça dérange. Mais Bolsonaro pourrait décider de revenir là-dessus, sur les quotas.
Il pourrait, mais...
C'est ce qu'il a dit qu'il ferait.
Oui, mais l'opposition sera farouche.
Les privilèges dont vous parlez, ça veut dire que certains considèrent qu'il ne faut pas se mélanger.
Il ne faut pas se mélanger. Vous savez, au Brésil, il y a un ascenseur de service
ouais.
qui est utilisé par le domestique.
On ne prend pas les mêmes escaliers, les mêmes ouais. ascenseurs.
Voilà, ça existe, bah oui, tout à fait, partout au Brésil. En France, ça existait jusqu'à les années 30 du siècle dernier, mm-hmm. 1930 par là. Les privilèges n'ont pas été abolis. Donc l'élite, elle a peur de perdre ses privilèges.
Il y a peu de chances que ce soit le gouvernement de Jair Bolsonaro qui s'attaque à ses privilèges.
Il va gouverner pour les riches, ça c'est sûr. Il va aussi usurper les terres des Indiens, ça qui est très grave.
On va en parler tout à l'heure, ouais.
oui. Mm-hmm. Et enfin, c'est un monsieur de... Il n'est pas un démocrate. Il soutient la dictature, la violence, la torture. Quel genre de démocrate, monsieur Bolsonaro?
Il n'y aura plus de ministre de la culture, plus de ministère de la culture. Il va être attaché au développement social et au sport pour l'écrivain que vous êtes. Ça doit être complètement aberrant et grave.
Oui, c'est aberrant, c'est atroce. Pour lui, les professeurs, les intellectuels sont des ennemis, subversifs. Mm-hmm. C'est un mec, c'est quelqu'un de très dépassé. Vous voyez, il parle encore contre le communisme. Mm-hmm. Pendant les élections, il a dit des choses horribles. Il a accusé la gauche d'être communiste. Il n'y a pas de communiste au Brésil.
On reparle de tout ça dans quelques instants ensemble, Milton Atum.
Europe 1, les carnets du monde.
Et c'est la suite de cette page brésilienne des carnets du monde avec Sophie Larmoyer.
Jair Bolsonaro a donc été officiellement investi cette semaine comme président du Brésil, issu d'un petit parti d'extrême droite militariste, on le disait. Milton Atum, grand écrivain brésilien, est avec nous pour partager son analyse de la situation du pays. On évoquait la disparition du ministère de la Culture. Quel symbole? Vous disiez, les intellectuels, les artistes sont des ennemis désignés du nouveau pouvoir. Est-ce que vous vous sentez menacé?
Oui, on se sent menacé, bien sûr. Mais je crois que ceux qui vont souffrir sont les pauvres, comme toujours. Ce sont les pauvres, les femmes des banlieues pauvres, les chômeurs. L'inégalité sociale va augmenter encore. Mmh. Plus, c'est fou, parce qu'au Brésil, cette inégalité,
elle est déjà criante.
C'est ouais. criante, c'est une chose aberrante. Il y a des gens qui gagnent 100 euros par mois, il y a des gens qui gagnent 5000 euros par mmh. mois.
Et pourtant, ce président, il a été élu par les Brésiliens. Est-ce que c'est le ras-le-bol vis-à-vis de la corruption qui a permis cette élection? Comment vous l'expliquez-vous?
Oui, c'est ça, c'est le ras-le-bol. Parce qu'il y a eu aussi de la corruption pendant les gouvernements de gauche. le gouvernement de droite aussi. Donc, c'est un vote anti-système.
Anti-système.
C'est le contre-tout. C'est une espèce de ras-le-bol, mais dangereux. Dangereux.
Oui, parce que d'une certaine manière, c'est un désaveu de la démocratie.
Tout à fait. Mais il faut dire aussi que la droite brésilienne a voté pour lui. Nous n'avons pas une droite républicaine.
Il n'y a pas de front républicain.
Non. Non, comme en France, il n'y a pas une droite républicaine qui garde les valeurs démocratiques et qui a voté contre l'extrême droite en France.
Mais on se demande quand même comment un candidat qui a proféré autant d'horreurs pendant sa campagne, on le disait tout à l'heure sur les Noirs, les homosexuels, les femmes, toutes les minorités, comment il a pu recueillir 58 millions de voix?
Oui, nous des fois, nous demandons ça aussi. Mais je crois qu'il a... il y a un thème, un sujet qui est très important au Brésil, c'est la sécurité. La violence au Brésil est énorme. C'est une espèce de guerre civile. À chaque année, il y a 50 000,
morts.
60 000 morts. Mm-hmm. C'est un scandale. Mm-hmm. Ce n'est pas une démocratie, ça. Alors, il a dit non, on va finir avec ça. Et donc, c'est une pensée très simple, très rustre. Alors, les gens pauvres croient ça.
C'est un mouvement qu'on constate ailleurs dans le monde aussi. C'est un peu
c'est un
le schéma
mondial.
D'une époque.
La remontée de l'extrême droite, c'est un phénomène mondial. Ce n'est pas seulement brésilien ou latino-américain.
C'est le bout d'un système? Qu'est-ce que vous diriez, vous, l'intellectuel, l'écrivain?
C'est un bout d'un système, je crois. Parce que les partis de droite, de centre, de gauche, il faut qu'ils repensent des choses.
La politique.
La politique, les questions économiques... Tout ça, parce que ça ne marche plus. Ça ne marche plus. La social-démocratie ne marche plus. Au Brésil, les candidats de la social-démocratie haïssent 5% à peu près, comme en France d'ailleurs. Donc il y a quelque chose qui ne va pas.
Quelque chose
donc
qui
il
ne tombe
faut
pas,
refaire la politique. Et les grandes corporations, ils soutiennent l'extrême droite. Au Brésil, c'est arrivé là.
Milton Atum, vos livres nous emmènent souvent dans votre ville, Manaus, même si vous vivez aujourd'hui, je crois, à Sao Paulo. Donc Manaus, c'est dans la région de l'Amazonie. Et puis, vous nous racontez beaucoup des histoires de famille. Dans votre roman, deux frères, des jumeaux s'opposent et l'un d'eux veut exploiter cet immense poumon vert qu'est l'Amazonie. C'est un enjeu très important aujourd'hui dans votre région du Brésil. La déforestation, l'agriculture intensive, vous disiez tout à l'heure, les Indiens sont en danger.
Oui. Oui, enfin, deux frères, c'est une métaphore du Brésil, enfin, parce que c'est un roman sur le destin de jumeaux, de frères. C'est un qui reste à Manaus, en Amazonie, l'autre qui va vers le sud, devient un ingénieur, qui croit au progrès, tout ça, et à la civilisation, au développement, et tout ça. Mais Bolsonaro, il a été soutenu par le agro-business.
Oui, qui a beaucoup d'argent.
Qui a beaucoup d'argent.
Très riche.
Donc, il va usurper le terrain des Indiens, des Yanomami, par exemple. C'est une terre très riche, très très riche. Il y a tout là-bas. Et je crois qu'ils seront très très défavorisés, les Indiens.
Justement, je vous propose d'écouter un autre reportage ensemble. Il a été réalisé plus au nord que Manaus, auprès des populations indigènes qui s'inquiètent de ce nouveau président. Bolsonaro a dit vouloir supprimer les réserves dans lesquelles vivent ces natifs du Brésil, des territoires pourtant garantis par la constitution du pays. Leur inquiétude est d'autant plus grande que le candidat Bolsonaro voulait aussi assouplir les règles pour l'achat d'armes à feu. On s'en souvient, pour que les grands agriculteurs locaux puissent, disait-il, s'en servir contre les indigènes. Donc, on va écouter ensemble ce reportage. Il est signé Jean-Sébastien Soldaini.
Depuis l'élection de Jair Bolsonaro, les représentants indigènes multiplient les réunions. Différentes communautés, différentes tribus quittent leurs terres reculées pour s'enfermer à huis clos dans une salle de leur QG au centre de Boa Vista. Et même au cœur de la ville, ils arborent leurs chapeaux à plumes et leurs tatouages. Pas de faute de protocole, il faut montrer que l'heure est grave. Bien qu'habitués aux provocations d'élus locaux, Audenir, représentant du peuple Wapichana, digère mal certains propos du nouveau président.
Bolsonaro est la deuxième personne à dire publiquement que nous sommes comme des animaux dans un zoo. C'est de la violence contre le peuple indigène et nous ne l'acceptons pas. C'est la preuve qu'il ne nous aime pas. Il vient d'une classe supérieure, une classe dominante qui ne semble pas disposée à entendre que le peuple indigène a des droits. Il veut nous éradiquer et il refuse d'accepter que nous ayons des terres qui nous sont réservées. Il refuse d'accepter qu'il y a un mouvement indigène, mais nous allons défendre notre terre et nos droits.
une défense de notre terre.
Leurs terres, ce sont 13% du territoire brésilien. La Constitution les leur garantit, sauf que Jair Bolsonaro veut annuler ce droit une fois élu. Ouvrir ses terres à l'agriculture intensive, du soja ou du café, et il semble anticiper une résistance de la part des Amérindiens. Déclaration fracassante, je donnerai des armes aux producteurs ruraux et ce sera leur carte de visite pour les envahisseurs. Les envahisseurs, sous-entendu, les indigènes, un discours que valide Nelson Itikawa, producteur de riz à Boavista.
Je suis totalement favorable à cette autorisation d'avoir des armes. Quand je me suis installé il y a environ 40 ans, nous étions 40 producteurs dans le coin. Aujourd'hui, nous sommes moins de 15. Nous avions environ 25 000 hectares de culture et là, c'est tombé à 9 000. Tout ça, c'est à cause de l'instauration de ces réserves indigènes. Nous avons donc perdu plus de 60% des terres. La conséquence, c'est que nos champs, nos fermes se retrouvent beaucoup plus isolés, éloignés des villes. Du coup, nous, les agriculteurs, nous ne sommes plus du tout protégés.
C'est simplement pour se défendre contre les vols et les agressions, dit-il. Pas pour prendre d'assaut les réserves, mais Sœur Thelma, une religieuse engagée dans une association de défense des droits de l'homme, peine à croire en la sincérité de ce genre de discours.
Quand un président de la République dit qu'une personne, qu'un indigène dans une réserve bien délimitée, et comme un animal dans un zoo, il ouvre la porte à toutes les formes de violence. Car pour les indigènes, la terre, c'est plus qu'un bien. C'est plus qu'une propriété. Il y a une relation avec la nature, une nécessité d'en prendre soin et d'y porter attention. Ils vivent mal le fait que des agriculteurs et des garimpeiros qui cherchent de l'or s'introduisent et envahissent ces terres.
Le discours du président élu semble avoir décomplexé certains. Des indigènes sont victimes d'attentats devant leurs institutions, d'autres subissent des intimidations et rien dans les propos de Jair Bolsonaro ne vient rassurer Maria, une autre indienne wapichana.
Comme c'est un militaire, je crois qu'il veut aller vers plus de militarisation de la société et aussi qu'il veut provoquer en disant tout cela. Il a aussi dit qu'il n'allait pas nous concéder un seul millimètre de terre supplémentaire. Tout dans son discours montre qu'il veut un régime militaire. Il va jusqu'à défendre des auteurs qui ont soutenu la dictature à l'époque.
La jeune femme se demande jusqu'où le président brésilien est prêt à aller. Dernière menace en date, la possibilité de construire un barrage hydroélectrique aux abords d'une réserve. Une fois remplie, les eaux inonderont une partie des territoires indiens. Boavista, Jean-Sébastien Soldaini, Europe 1.
Milton Atum, cette indienne Wapichana qu'on entend à la fin du reportage, elle évoque un régime militaire. Est-ce que vous croyez possible un retour de la dictature au Brésil 33 ans après la fin de la dictature?
Non, je ne crois pas. Je ne crois pas, mais Bolsonaro l'a encerclé par des militaires, par des généraux. Le vice-président est un général, d'ailleurs beaucoup plus intelligent que Bolsonaro, qui est un homme ridicule. Mais ce qu'ils ont dit par rapport aux Indiens, c'est vrai. Parce que le grand agriculteur...
Oui, celui qui cultive le riz, là.
Et ils ont des milices. Comme dans les villes, des grandes villes, comme à Rio, comme à São Paulo, ils ont des milices. Et Bolsonaro va permettre que cette milice agisse librement.
Donc il faut craindre des affrontements, il faut craindre des violences.
Il y aura des morts, il y aura de la violence, il y aura... Le scénario est sombre. Il va commettre un crime contre les Indiens. C'est ça qui m'agace.
Et en même temps, vous dites que vous ne craignez pas le retour de la dictature. Est-ce que la justice est indépendante pour faire face à ces situations-là?
Non, la justice est complice. Il suffit d'être complice. Ils n'ont pas besoin de donner un coup d'État. Ils ont déjà de la justice qui travaille avec eux. Lula est en prison.
Pour 12 ans, oui, au moins.
Oui, Lula allait gagner les élections au premier tour. Ça, il faut dire.
Oui, il était devant dans les sondages. Oui,
c'est ça. Et donc, ils empêchaient la participation de Lula. l'ancien juge Moreau, l'actuel ministre de la justice, c'est une honte.
C'est lui qui a mis Lula en prison.
Ben oui.
Donc, mais du coup, quels sont les remparts contre la dictature, si ce n'est pas la justice?
Je crois que le scénario international n'accepterait pas une dictature classique, un coup d'État classique au Brésil. Et comme je dis auparavant, ils n'ont pas besoin de ça. Ils ont déjà donné un coup parlementaire.
Quand ils ont destitué Dilma Rousseff, l'ancienne présidente de gauche.
C'était un coup parlementaire. Mm-hmm. Et le scénario, c'est ça.
Avancer masqué.
Par le biais.
Alors la résistance, elle viendra d'où? Des citoyens, des intellectuels?
De partout. Les syndicats, les ouvriers, les gens pauvres, les ONG, les universitaires, les artistes, l'avenir de tous les coins, partout au Brésil. D'ailleurs, elle a déjà commencé. La résistance a déjà commencé. Plusieurs actes, plusieurs manifestations, des gens qui écrivent, qui publient des articles.
C'est pour ça que vous disiez tout à l'heure que les intellectuels, les artistes, les écrivains, parfois se sentaient menacés.
Oui, parce
qu'il y a une pression.
L'ambiance sera une ambiance marcartiste, comme Marquardt aux États-Unis. Mm-hmm. La délation, la persécution.
Ça a commencé, ça?
Ah oui, des profs ont été démissionnés, ont été mis dehors des écoles, de quelques écoles privées. Oui, ça a déjà commencé. C'est presque un régime fasciste. Je ne dirais pas fasciste parce que le fascisme est bien structuré. Mais il y a une mentalité fasciste.
Est-ce que c'est un tournant du Brésil, un moment qui vous inspire, vous, en tant qu'écrivain?
Ah oui, je vais continuer à écrire, je vais continuer à donner des conférences, à discuter avec les jeunes. Je vais beaucoup aux écoles, parce que mes romans sont lus dans des écoles publiques et privées. Donc, je visite beaucoup d'écoles au Brésil.
Vous aurez encore accès aux écoles?
Oui.
On ne va pas vous empêcher d'y aller?
Ah oui, s'ils m'empêchent d'aller, oui, ils peuvent m'empêcher. Ils peuvent me mettre en tôle. Mais je n'ai pas peur. Je n'ai pas eu peur pendant la dictature. Pourquoi j'aurais peur à ce moment-là?
Quand même, vous décrivez une drôle d'ambiance quand même. Hein.
C'est une drôle d'ambiance, mais il faut exorciser la peur et croire à une transformation, toujours.
Eh bien, en attendant, on peut lire vos œuvres traduites en français. Je citais tout à l'heure Deux frères, on peut citer aussi Cendres d'Amazonie ou La ville au milieu des eaux, donc c'est un recueil de nouvelles qui vient de paraître. Tout ça, c'est chez Actes Sud. Merci beaucoup, Milton Atum, de nous avoir aidé à décrypter le Brésil qui s'engage dans 2019 avec un nouveau président d'extrême droite. On a entendu votre inquiétude et en même temps votre confiance un peu dans les Brésiliens et dans l'avenir. Merci beaucoup et bon retour vers le Brésil.
Merci à vous. Merci.
Europe 1.
Notre ami Joseph Chovanec est en vadrouille dans la péninsule arabique. C'est la magie de la radio, on l'appelle dans un tout petit instant.
Europe 1. Les carnets du monde.
Encore une bonne résolution dans les carnets du monde avec Sophie Larmoyer pour suivre nos petits voyages en Autistan.
Depuis plus de 4 ans, notre guide en Autistan, c'est Joseph Chovanec, philosophe, autiste Asperger et surtout grand voyageur. Et d'ailleurs, comme toujours en début d'année, il est en vadrouille au Sultanat d'Oman et avec nous par liaison Skype. Bonjour Joseph.
Bonjour Sophie, bonjour à tout le monde.
Alors vous faites partie de ces gens qui n'aiment pas trop ces fêtes de fin d'année, Joseph, et c'est pour ça que vous prenez le large.
Ah mais exactement, quand on voit ce tunnel de festivités, une seule chose est certaine, il vaut mieux être autiste pour ne souffrir ni de la gueule de bois, ni de la solitude dans les derniers jours de l'année calendaire. Mais peut-être qu'il y a encore une autre façon de faire, s'inspirer de comment on fait la fête ailleurs dans le monde, de ce qui rend les gens heureux.
Ah, ça sent le vécu ça.
Oui Sophie, j'ai pu y réfléchir longuement. Par exemple, le vendredi dernier, pour la première fois de ma vie, j'ai assisté à un mariage traditionnel omanais, dans un village du désert. Parfois, quand on parle de mariage dans la péninsule arabique, les gens fantasment sur je ne sais quelle débauche de parure, de dorure, etc. En fait, non, rien de cela. Il s'agissait d'un mariage tout à fait simple sur le plan matériel, avec une étudiante et un policier, si l'on accepte la décoration de la maison de la mariage. mariée qui était toute couverte de guirlandes lumineuses. Il n'y a sans doute pas eu de frais particuliers. La richesse était ailleurs et j'ai rarement été autant ému par un événement similaire.
Qu'est-ce qui vous a tant plus ému ?
Mais de voir l'accueil qui a été fait à chacun, y compris à moi, l'étranger, la qualité non feinte des relations interhumaines, le fait que tout le monde se lève quand un invité arrive pour le saluer avec, par exemple, le toucher de la pointe du nez, qui est un signe très fort d'affection ici, avec un incroyable attachement aux plus vieux qui peinent à marcher. Un invité ou pas d'ailleurs, parce que le mariage a eu lieu en plein air, n'importe qui pouvait venir. Et dans la nuit chaude du désert, j'ai eu cette impression de me retrouver à une cérémonie identique à celle des temps bibliques, plusieurs millénaires en arrière, ces tribus étant très conservatrices. On pourrait quasiment s'attendre à voir Abraham surgir avec sa caravane de chameaux, les mêmes vêtements ou presque que les participants à la noce. Bon, la seule rupture de la tradition, c'est que les époux repartent en voiture et non plus à d'autres chameaux, justement. Et mon ami Omané d'ajouter d'une voix sombre: la mariée quitte la maison de son père, Li Abad, à jamais. 3 heures plus tard, c'était fini. Je me suis retrouvé seul dans la nuit noire du désert. Je me demandais même si j'avais rêvé ou pas.
C'est un souvenir qui vous accompagnera longtemps, j'imagine.
Mais oui, à y réfléchir, ces fêtes qui m'ont le plus marqué ont toujours associé 2 éléments, une qualité non feinte des liens entre les êtres humains et le fait que la fête fasse sens, qu'elle s'inscrive dans l'histoire commune, comme cette nuit à Taïwan, il y a bien des années déjà, où un moine bouddhiste venait de prendre la succession d'un autre au monastère. Après plusieurs semaines où je l'avais croisé sans trop le connaître, ce moine, un soir, nous avait rassemblés et après un moment de silence, nous avions écouté jusque tard dans la nuit l'histoire de sa vie, comment il avait abandonné son pays, sa famille, sa langue pour se faire moine au bout du monde. Là non plus, il n'y avait rien de matériel à la fête, peut-être un bol de thé chaud, un mélange de tous les thés dont les autres n'ont pas voulu pendant la journée selon la tradition bouddhiste. Mais là aussi, pendant des heures, j'avais eu ce sentiment d'irréalité d'avoir vécu quelque chose d'inoubliable. De cela, l'achat des biens matériels en quantité n'est qu'un piètre substitut. Comme le dirait un dicton local, « Akalu anna sisaruran al-hasudu », le plus malheureux des hommes, c'est le plus avide. Bonne année, puisse-t-elle compter beaucoup de ces fêtes véritables.
Ouais, des fêtes véritables autour d'un bol de thé chaud, tout simplement. Hein. On retient l'idée, ça va nous faire beaucoup de bien à tous, finalement. Merci.
Tout à fait.
Merci beaucoup, Joseph. On se rappelle la semaine prochaine sans faute, depuis Oman.
À très bientôt, Ilalika.